الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه الليلة أو هذا اليوم هو الثامن من شهر شعبان من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو 11 في شرح كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 13 avril 2019 et nous voici réunis pour l'étude du 11e et dernier cours de l'écrit intitulé مسائل الجاهلية, les pratiques de l'ère pré-islamique de l'imam Muhammad, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-masailu al-thalithatu al-rabi'atu al-khamisatu al-sadisatu al-sabi'atu al-thaminatu ba'd al-mi'a » Les questions suivantes, la 103, 4, 5, 6, 7 et 108. « Al-kufru bil-malaikati, wal-kufru bil-rusul, wal-kufru bil-kutub » الإعراض عما جاء عن الله الكفر باليوم الآخر التكذيب بلقاء الله. Parmi les pratiques des gens de l'ère pré-islamique, ces gens qui vivaient dans cette époque d'ignorance et d'éloignement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait la mécréance aux anges, aux messagers, aux livres, le fait de se détourner de tout ce qui est venu d'Allah, la mécréance au jour dernier et en la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là étaient retrouvées chez ces gens vivant dans cette époque d'ère pré-islamique. Et toutes ces choses relèvent de al-jahiliyyah. Il cite en premier, rahimahullah, la mécréance aux anges. La mécréance aux anges qui se manifeste sous plusieurs formes. Elle peut être le fait de ne pas croire en leur existence. Mais elle n'est pas restreinte à cela. Elle peut être le fait de mécroire à certaines des propriétés qui ont été accordées aux anges. Cela revient à mécroire en eux. Elle peut aussi se manifester lorsque la personne donne à des anges des attributs qui ne reviennent de droit qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une mécréance aux anges aussi. Ainsi, lorsque l'on parle de la mécréance aux anges, qui sont des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, cette mécréance se manifeste sous différentes formes. Il ne s'agit pas simplement de dire, ne pas croire que les anges existent. Ça, ce n'est qu'une des formes de mécréance aux anges. Et elles sont multiples. Et la mécréance aux anges revient à mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont des êtres créés par Allah tabaraka wa ta'ala à partir de lumière et qui sont connus comme ne désobéissant jamais à Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent pas à Allah lorsqu'il leur ordonne et exécute ses ordres, subhanahu wa ta'ala. Et les anges ne désobéissent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala, sont tous croyants. Et il est un devoir de croire aux anges, et c'est un fondement de la croyance de l'islam, et un fondement de la croyance des gens de la sunna. Ceci fait partie des 6 piliers de la foi que vous connaissez. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, que celui-ci apparaisse bon ou mauvais. Et ainsi, celui qui ne croit pas en un des 6 piliers de la foi annule les autres. Il annule alors sa croyance. Donc celui qui mécroit aux anges a mécru en Allah, en ses livres, au jour dernier, en ses messagers et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et il n'est pas croyant jusqu'à ce qu'il croie aux anges. Et croire aux anges implique plusieurs choses. Alaykoum assalam, rahmatullahi wa barakatuh. Parmi lesquelles, croire certes en leur existence, croire aux noms qui ont été donnés à ceux dont nous connaissons les noms, croire en la fonction qu'ils ont pour ceux dont nous connaissons la fonction, croire en leur description physique pour ceux dont nous connaissons la description physique. Par exemple, parmi les anges, Jibril alayhi salam, nous devons y croire de manière détaillée, avec son nom, avec sa fonction. Il descend avec la révélation qu'il transmet aux messagers vers lesquels il est envoyé, le dernier étant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons croire en sa description physique, qui a été décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ra'aytu Jibril, j'ai vu Jibril alayhi salam, lahu sittu mi'ati janah, qad sadda biha al-ufuq. » Il a 600 ailes par lesquelles il a couvert l'horizon. Ici, nous avons une description détaillée qui nous est faite. Et les gens de la sunna disent, concernant la foi aux anges, que nous devons croire en tous les détails qui nous ont été donnés dans les textes du Coran et de la sunna authentique, comme ils sont. Quant aux autres détails qui ne nous sont pas forcément donnés de manière générale, nous y croyons de manière générale. On ne connaît pas le nombre des anges, mais l'on sait qu'ils sont très nombreux. Alors nous nous contentons de croire qu'ils sont très nombreux. Et dès lors qu'on a une information qui est précise, nous devons y croire. Croire à tout cela revient à croire aux anges. Mais croire aux anges se manifeste sous plusieurs formes, que ce soit mais croire en leur existence ou en leur donnant des propriétés d'Allah tabaraka wa ta'ala, des attributs, des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, ou en mécroyant en une partie des propriétés qui leur ont été données. La croyance aux anges est un pilier, un fondement de base indispensable. Les gens de la Jahiliya manifestaient une mécréance envers les anges lorsqu'ils disaient que les anges étaient les filles d'Allah, notamment. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est gravissime. Et jusqu'à nos jours, il y a des groupes égarés qui ont des mauvaises croyances vis-à-vis des anges. Soit ils mécroient leur existence, soit ils affirment leur existence en leur donnant des propriétés qui ne reviennent qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils les associent à Allah, azza wa jal, ou alors toute autre forme d'égarement qui revient à mécroire aux anges. Al-kufru bil-rusul, la mécréance aux messagers. Les messagers sont des hommes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, portant son message qu'ils sont chargés de transmettre aux gens. Ils sont principalement envoyés pour appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer seul et sans aucun associé. Les messagers ne méritent aucunement l'adoration, mais ils doivent être aimés plus que quiconque parmi les gens. Les meilleurs d'entre eux sont 5. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, Isa alayhi salam, Musa alayhi salam, Nuh alayhi salam. On les appelle ulul azmi min ar-rusul, les 5 doués de fermeté parmi les messagers. Les messagers doivent être suivis. Et le musulman a l'obligation de croire à l'ensemble des messagers. Celui qui mécroit à un seul d'entre eux a mécru en l'ensemble. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kazzabat qawmu Nuhin al-mursalin » Le peuple de Nuh a mécru aux messagers, au pluriel. Messager avec un S. Alors que l'on sait que le premier messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala est le messager Nuh alayhi salam. Ceci dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, le hadith connu sous le nom de hadith al-Shafa'a, rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, un long récit dans le dernier chapitre de Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid. hadith al-shafa'a. On y voit que le jour dernier, les gens se dirigeront vers Adam alayhi salam en lui demandant l'intercession pour que le jugement puisse commencer. Adam alayhi salam leur dira: allez voir Nuh. Itu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard. Allez voir Nuh, le premier messager qu'Allah envoya aux gens de la terre. Ce verse hadith, plus le verset, les deux textes joints, nous montrent que Nuh alayhi salam est le premier messager et que mécroire à un d'entre eux revient à mécroire à l'ensemble. Car Allah azza wa jal, dès lors que ces gens-là ont mécru à Nuh alayhi salam, a dit d'eux: كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh a mécru aux messagers, au pluriel. Alors qu'à leur époque, il n'y avait qu'un messager, c'est Nuh alayhi salam. Et avant lui, il n'y en avait pas. Et ils sont à leur époque. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla a dit d'eux qu'ils ont mécru à tous les messagers. Ainsi, mécroire à un messager revient à mécroire à l'ensemble des messagers. Et chez les gens de la Jahiliya, il y avait certains qui refusaient de croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de croire à Isa alayhi salam. Ainsi, ils ont mécru en tous les messagers. Et croire aux messagers est un des piliers, des fondements de la foi. Al-kufru bil-kutub, la mécréance aux livres, les livres qui sont révélés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont sa parole contenant ses ordres, ses interdits, ses informations, sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal a révélé plusieurs livres, le dernier étant le Coran. Le Coran a été révélé par Allah Azza wa Jal et il prévaut sur l'ensemble des livres qui ont été falsifiés avant le Coran. On se retrouve alors avec des livres contenant une partie de vrai et une autre de faux. Comment agir face à cela? La partie de vrai contenue dans les livres anciens est confirmée par le Coran. Et la partie fausse est réfutée par le Coran. En ce sens, le Coran nous suffit amplement et nous n'avons pas besoin et pas le droit de lire les livres qui ont précédé le Coran, en raison des ambiguïtés qui s'y trouvent et de la falsification. Sauf le savant qui lit les ambiguïtés dans le but d'y réfuter et de les dévoiler. À part cela, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam rencontra un jour Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui portait à la main des feuillets d'anciens livres qu'il lisait. Le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit: «Walladhi nafsi biyadih», je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, «لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي», que si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. C'est-à-dire que même Moussa alayhi salam, s'il était vivant au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait suivi le Coran et délaissé la Torah qui lui a été révélée. Et il y avait chez les gens de la Jahiliya certains qui mécroyaient aux livres révélés par Allah Azza wa Jal. De plusieurs façons, la mécréance envers ces livres se manifeste. Le fait de croire qu'ils ne sont pas la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'ils sont la parole d'une créature, comme c'est la croyance de certaines sectes de cette époque et ceux qui les suivent, comme Al-Mu'tazila et d'autres, qui ont pour croyance que le Coran est créé, wal'iyadhu billah. Cette parole est de la mécréance sans le moindre doute. Ou alors, en falsifiant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela revient à mécroire en ce livre. Ou alors même, en allant écrire des paroles pour les attribuer à Allah en disant d'elles quelles sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Malheur donc à ceux qui écrivent de leurs mains l'écriture, puis qui disent ceci fait partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-i'radu amma ja'a 'anillah. Il y avait également le fait de mécroire à tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de se détourner de tout ce qui vient d'Allah. Al-kufru bil yawm al-akhir. La mécréance au jour dernier, le jour dernier étant un des six piliers de la foi, qui a très souvent été rattaché dans le Coran et dans les hadiths à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir. فَلْيَفَلْ كَذَا وَكَذَا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا إِلَى آخِرِهِ. Quiconque a foi en Allah et au jour dernier, qu'il fasse telle et telle chose, comme le fait d'honorer son invité, de dire du bien ou alors se taire, et tout ce qui a été cité dans les textes du Coran et de la Sunna, où l'on voit que la foi au jour dernier est souvent rattachée et jointe à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi au jour dernier, de manière générale, revient à croire à tout ce qui arrivera dès la mort de l'homme, jusqu'à l'entrée au paradis ou l'enfer. Toutes les choses qui arriveront après la mort et qui ont été affirmées dans le Coran et la Sunna, nous avons l'obligation d'y croire. Et toutes ces choses font partie de ce pilier qui est Al-Iman ou Bil-Yawm Al-Akhir, la foi au jour dernier. Et pour entrer plus en détail, la foi au jour dernier comporte trois points essentiels. Premièrement, al-ba'th, la résurrection. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ange Israfil alayhi salam de souffler dans la trompe, et c'est alors que les gens se lèveront debout. Allah azza wa jalla a dit: ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Puis on y soufflera une autre fois, et les voilà se tenant debout à regarder. Ça c'est Al-Ba'ath, c'est la résurrection. Le deuxième point de la croyance au jour dernier, Al-Imanu bi al-Hisab, la foi au jugement. Et parmi les noms du jour de Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab. Yawm al-Hisab. Et Allah Azza wa Jalla a dit: Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Leur retour s'effectuera vers nous et leur jugement nous incombe. Les gens seront jugés le jour dernier. Et on établira la balance qui aura deux plateaux sur lesquels seront posées les bonnes et les mauvaises œuvres. Et ainsi Allah Azza wa Jal va établir l'équité entre les gens le jour dernier. Il dressera les comptes. Wallahu sari'ul hisab, comme il dit dans le Coran. Allah est prompt à dresser les comptes. Et la troisième chose qui entre dans la foi au jour dernier, al-iman ou bil-jaza, la croyance en la rétribution, puisque Allah Azza wa Jal va nous ressusciter, il va juger des gens, à part ceux qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment, les gens qui ont complété le tawhid. Sinon, il va juger les gens, subhanahu wa ta'ala, et ensuite, il va les rétribuer. Et cela fait partie de la foi au jour dernier. Et si vous voulez les détails de cela ordonnés, je vous conseille et vous recommande vivement de lire un écrit concis de l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, intitulé Usul al-Iman, et même de l'étudier. Et vous y comprendrez correctement, bi'idhnillah, les six piliers de la foi, ses intérêts, leurs intérêts et les biens qui en découlent. Qu'Allah fasse miséricorde au Sheikh ibn al-Uthaymeen, rahimahullah. At-takdhibu bi-liqa'illah. Il démentait la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sunna, on retrouve cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a ramassé un os à terre pour lui dire: Ya Muhammad, atazumu anna rabbaka yab'athu hadha? Ô Muhammad, prétends-tu que ton Seigneur va ressusciter cela ?» Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, dans le sens du hadith, « Yuhyika, thumma yumituka, thumma yab'athuka, thumma yitriluka an-nar. » Il te fait vivre, il va te faire mourir, il va te ressusciter, il va te faire entrer au feu. Wallahu musta'an. Et Allah a révélé concernant cela quelques versets retrouvés dans Surat Yasin. قَالَ مَا يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Il dit, qui fait revivre les os alors qu'ils sont usés ou effrités? Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, a dit que les gens de l'Jahiliya ne croient pas en toutes ces choses dont nous avons parlé. Il dit, لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ أُمُورِ الْغَيْبِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْبِغَيْبِ. Car cela relève de la croyance en l'invisible et eux ne croient pas en l'invisible. Ils ne croient, le shir dit tout simplement, وَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ. Ne croit en ces choses-là que celui qui croit en l'invisible. فَلِذَلِكَ كَفَرُوا بِالْمَلَائِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِهَذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ فِي أَوَّلِ الْقُرْآنِ. Allah Azza wa Jal a fait dans le début du Coran les éloges de ceux qui ont eu la foi en l'invisible. Surat al-Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Voici le sujet, le livre au sujet duquel il n'y a nul doute. لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est, il est une guidée pour les pieux. Qu'est-ce qu'il cite après? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui ont foi en l'invisible. Wa yuqimuna as-salat. Et qui accomplissent la prière. Ila akhir al-ayah. Jusqu'à la fin du verset. Et qu'est-ce que l'on voit? Que la première chose qui a été citée, c'est l'aqidah. C'est la croyance. Et après la prière et les actions. Et tout est basé sur la croyance. Et c'est la croyance qui est le moteur et qui pousse aux actions. Et c'est avec celle-ci que les actions sont valides ou invalides, en fonction de la bonne croyance ou la mauvaise. Donc voici quelques points de l'époque pré-islamique. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit « Al-mas'alatu at-tasi'atu ba'da al-mi'a » La question 109 « At-takdhibu bi ba'di ma akhbarat bihi ar-rusulu 'an al-yawm al-akhir » Le fait de démentir, de traiter de mensonge, certaines informations apportées par les messagers concernant le jour dernier. Donc on a soit des gens qui refusent clairement de croire au jour dernier, ou d'autres qui croyaient au jour dernier, mais qui refusaient de croire à certaines informations transmises par les messagers d'Allah, alayhim as-salatu was-salam. كما في قوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه كما الله سبحانه وتعالى a dit, ils sont ceux qui ont mécru au signe de leur Seigneur et en sa rencontre. Ici, Allah Azza wa Jal nous parle de ceux qui ont mécru en la rencontre d'Allah تبارك وتعالى. ومنها التكذيب بقوله Maliki yawm al-din. Aussi, dans Surat al-Fatiha, Maliki yawm al-din, le maître du jour de la rétribution. Le fait de mécroire à cette parole et ce qu'elle comprend, qu'Allah Azza wa Jal va rétribuer les gens en fonction de leurs bonnes actions, récompenses, mauvaises actions, châtiments. Wa qawli La bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. Tout comme sa parole subhanahu wa ta'ala, où Allah Azza wa Jal invite les gens à dépenser de ce qu'il leur a donné avant que ne vienne un jour où il n'y aura nulle vente, commerce, nulle amitié, nulle intercession. Wa qawli, et on va expliquer cela après, وَقَوْلِهِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal, sans se rapprocher de la partie du verset, à l'exception de ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. On avait affaire donc à des gens qui refusaient de croire au jour dernier et à d'autres qui refusaient de croire à certaines choses arrivant le jour dernier, qui ont été enseignées par les messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de mécroire au jugement, ou alors le fait de mécroire en la pesée des actions, ou alors le fait de mécroire au paradis ou à l'enfer. Tout cela revient à mécroire en Allah, et car ces choses-là font partie de la mécréance majeure. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, dit, vais-je vous informer des plus perdants en œuvre, الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, ceux dont l'effort s'est perdu dans la vie d'ici-bas, tout en pensant qu'ils faisaient le bien. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ, ceux-là sont ceux qui ont mécru au signe de leur Seigneur et en sa rencontre. Que s'est-il passé? فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَنُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, leurs actions devinrent vaines. Les actions ont été annulées par Allah Azza wa Jal. On ne leur accordera aucun poids le jour de la rétribution. Le fait de mécroire au jour dernier, donc à la parole d'Allah Azza wa Jal, Maliki Yawmiddin, à travers cela, ils mécroyaient au jugement que tout le monde va rencontrer. Également, l'auteur rahimahullah a cité La bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. Le verset où Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'y aura le jour dernier aucune vente, aucune amitié, aucune intercession. Ce jour-là, il n'y aura aucune vente. Le Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Muhsin al-Badr, hafidhahullah, a dit, c'est-à-dire, personne ne pourra acheter les hasanats pour augmenter le nombre de bonnes actions qu'il a. Tout comme personne ne pourra vendre ses péchés pour s'en décharger, les vendre à autrui. La bay'un fi, il n'y aura pas de commerce ce jour-là. Wala khullatun, et pas d'amis intimes ce jour-là. Personne ne pourra te secourir lorsque tu te présenteras à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un ne t'est pas utile dans cette vie d'ici-bas, dans ton rapprochement vers Allah, alors fuis-le comme tu fuis le lion. Wala shafa'a, il n'y aura pas d'intercession. Il n'y aura pas d'intercession le jour dernier. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, et dans d'autres versets, il affirme qu'il y aura une intercession. Et cela n'est pas une contradiction, mais seulement il faut connaître qu'il y a deux types d'intercession. Celle qui est affirmée par le Coran et la Sunna, et qui a ses conditions, et celle qui est niée par le Coran et la Sunna, celle qui n'a pas respecté les conditions, justement. Le fait, par exemple, de demander l'intercession à une créature en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un prophète, un ange, un pieux ou tout autre, cette intercession est annulée le jour dernier. Et c'est de ce genre d'intercession qu'Allah Azza wa Jal parle lorsqu'il nous dit « Wala shafa'a ». Il n'y aura aucune intercession. C'est-à-dire dès lors que la personne n'a pas respecté les conditions pour voir l'intercession arriver pour elle le jour dernier. Comme al-shirk billah subhanahu wa ta'ala, le polythéisme, la personne qui commet al-shirk ne peut pas bénéficier de l'intercession, ni elle-même intercéder, puisqu'elle-même sera dans le feu, wal'iyadu billah. Et de manière générale, l'intercession qui a été affirmé par Allah Azza wa Jal dans le Coran, a des conditions. La première, al-rida, qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait. Ani shafi' wal-mashfu'i lahu, de l'intercesseur et de celui pour qui il intercède. Et Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait des gens du tawhid. Ceux qui ne sont pas muwahidun, monothéistes, qui n'adorent pas Allah seul sans associé, Allah n'est pas satisfait d'eux. Allah Azza wa Jal a dit, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. أي بالتوحيد. الله عز وجل a dit dans le sens du verset, si vous me croyez, Allah se passe de vous. Et il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Et le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah, a dit, وَأَعْظَمُ الشُّكْرِ التَّوْحِيدِ. Et la plus grande reconnaissance, c'est le tawhid. Et la deuxième chose, idnullah subhanahu wa ta'ala, لِشَافِعِ أَنْ يَشْفَعَ. L'autorisation qu'Allah donne à l'intercesseur pour qu'il puisse intercéder. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَاهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne possèdent pas l'intercession. Toutes les demandes d'intercession autre qu'Allah entrent dans ce verset. Ce verset, tu dois le connaître. Lorsque tu vois quelqu'un demander l'intercession à un prophète, à un ange, à un pieu, ou croire que l'on peut demander à une créature l'intercession, récite-lui ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَاهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui. Puis tu lui poses la question, et tu lui dis, هذا الذي تسأله الشفاعة هل هو من دون الله أو لا؟ Celui à qui tu demandes l'intercession, امشي وحدك عبد الرحمن. Et ceux à qui tu demandes l'intercession, est-ce qu'il est en dehors d'Allah ou non? Il est obligé de te dire oui. Tu lui dis alors lis ce verset. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui, de qui? D'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, est-ce qu'il est en dehors d'Allah? Oui. Il est concerné. Ne possède pas l'intercession, puis Allah Azza wa Jal dit, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. À l'exception de ceux qui attestent de la vérité, wa hum ya'lamun. Tout en pleine connaissance de cause. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans ce verset, هذا استثناء منقطع, que cette exception qui est faite, c'est l'exception d'une chose qui ne rentre pas dans la première cité. Comprenez bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché du verset, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possède pas l'intercession, sauf ceux qui attestent de la vérité en pleine connaissance de cause. C'est-à-dire, ceux que vous invoquez en dehors de lui, que vous sollicitez en leur demandant l'intercession notamment, ne peuvent pas intercéder pour vous. Point. À la ligne, les seuls pouvant intercéder pour vous sont ceux qui témoignent de la vérité en pleine connaissance de cause. Et la vérité, c'est « La ilaha illallah », les gens du tawhid. Ceux qui témoignent de « La ilaha illallah » en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire en comprenant cette parole, en ayant son sens et ce qu'elle implique, auront l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala d'intercéder en la faveur des méritants à l'intercession, qui ne sont pas ceux qui l'ont demandé à autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah muwaffiqu li kulli khayr. L'auteur rahimahullah dit ensuite, al-mas'alatu al-ashiratu ba'd al-mi'a, la question 110, qatlu alladhina ya'muruna bil-qist min an-nas, le fait d'assassiner parmi les gens ceux qui ordonnent l'équité. Ceux qui ordonnent l'équité, et cela fait partie des coutumes retrouvées chez les gens du livre, notamment le peuple de Banu Israël, qui a tué un grand nombre de prophètes qui leur ont été envoyés par Allah, subhanahu wa ta'ala. De même, le fait de tuer les prêcheurs à Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à notre époque, dans beaucoup de pays, ceux qui appellent au tawhid, ceux qui appellent à la sunna, sont tués, comme par exemple, ils sont tués par la shi'a, parce qu'ils appellent au tawhid, ils appellent à ne pas adorer ceux que les shi'a adorent, et autres sectes encore. Tout cela fait partie de la jahiliya. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَةِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ceux qui mécroient au signe d'Allah et tuent les prophètes injustement, ils tuent aussi ceux parmi les gens qui ordonnent l'équité. Ils appellent au tawhid, ils rejettent le shirk, ils appellent à la sunna, ils rejettent la bid'a, ils appellent à l'obéissance d'Allah, ils rejettent la désobéissance à Allah. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce-leur alors la nouvelle d'un châtiment douloureux. L'auteur rahimahullah dit ensuite, الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِئَةَ. La question 111, الْإِيمَانُ بِالْجِبْتِ وَالْطَّاغُوتِ. La croyance à ce qui est appelé en arabe الْجِبْتِ et الْطَّاغُوتِ. الْجِبْتِ, ce que l'on appelle الْجِبْتِ, nous l'avions vu en détail dans Kitab al-Tawhid, a été expliqué par plusieurs choses comme notamment al-sihr, la sorcellerie, et al-shaytan. Al-shaytan. Et certains ont dit que tous ces sens sont compris dans le verset. Car dans le Coran, il y a une règle qui dit que lorsque le verset peut comprendre plusieurs choses qui ne se contredisent pas les unes avec les autres, alors on peut donner à ce verset tous ses sens. Dès lors que ces sens ne se contradisent pas. Et at-tarout, c'est dans la langue arabe, ça vient du mot torian, qui est le fait d'outrepasser la limite, le fait de transgresser. Et le tarout dans la religion est expliqué par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah comme étant kullu ma tajawaza bihi al-'abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Tout ce par quoi le serviteur a outrepassé les limites, tout ce avec quoi il a exagéré, il a transgressé, il a dépassé les limites fixées par Allah, comme un être adoré, suivi ou obéi. Dès lors qu'il est adoré, la limite a été transgressée. Dès lors qu'il a été suivi dans la désobéissance à Allah, la limite a été transgressée. Dès lors qu'il a été obéi dans la désobéissance à Allah, la limite a été transgressée. Les gens de la jahiliya croyaient justement à ce que l'on appelle al-jibd et al-tarout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْطَارُوتِ الْآيَةِ. Ne vois-tu pas, ou n'as-tu pas vu, ceux qui ont reçu une part du livre, croire au jibd et au tarout? Ils s'adonnaient à la sorcellerie, ils tombaient dans diverses formes de polythéisme qui sont toutes dans At-Tarout et ainsi de suite. Ainsi étaient ces gens de l'époque pré-islamique. Et la sorcellerie est un fléau qui a ravagé beaucoup de gens qui disent « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Et les deux causes principales de la sorcellerie, comme on l'avait dit dans Kitab al-Tawhid, sont as-sihhatu wa rizq, la santé et la subsistance. Si tu médites sur la plupart des cas de sorcellerie, tu verras qu'ils sont rattachés à la santé. On le fait pour avoir la bonne santé, pour guérir d'une maladie, pour atteindre quelqu'un dans sa santé et lui donner une maladie, wal-iyadu billah, ou être la cause. Ou la subsistance, on le fait pour s'enrichir ou appauvrir quelqu'un. Et ça, c'est les deux bases pour lesquelles les gens tombent dans la sorcellerie, comme l'a dit le Cheikh Abdel Razzaq ibn Abdel Mohsin al-Badr, hafidhahullah, dans le Shah du Kitab al-Tawhid. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous donne une remarque importante. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces gens-là ont eu foi au dibd et au tarout, à la sorcellerie, au shaitan et à la mécréance. Donc ils ont mécru. Mais quand on revient à l'explication de ce verset, et la cause de la révélation de ce verset, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit que les Juifs qui vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, lorsqu'il y a émigré, avec lesquels il avait justement signé un traité ou eu un accord leur interdisant notamment de combattre les musulmans et de défendre la ville de Médine si elle était attaquée. Ils avaient donné leur parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils ont vu que l'islam se répandait dans la ville de Médine et même ailleurs, et évoluait en bien, ils n'ont pas supporté cela. Ils sont donc allés voir les grands de Quraysh à la Mecque en leur demandant d'attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh leur a dit: Antum ahlu kitab, fa ayyuna ala al-haq. Vous êtes les gens du livre. Qui parmi nous est dans la vérité? Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam am nahnu? Est-ce Muhammad qui est dans la vérité ou nous autres, les gens de Quraysh? Qalu mala antum alayh? Les Juifs leur ont dit: et vous êtes sur quoi? Qalu nahnu nukrimu ad-dayf wa nasilu al-arham wa nasqi al-hajij wa kadha wa kadha. Ils leur ont dit: nous honorons notre invité, lions les liens de parenté, nous abreuvons les pèlerins. Ils ont cité un certain nombre de bonnes actions. Wa amma Muhammadun fa innahu sabba alihatana wa 'aba dinana wa khalafa din ajdadihi. Quant à Muhammad, il a dénigré nos divinités, il a dénigré notre religion et la religion de nos ancêtres. Il a rompu entre nous les liens de parenté. Et ils ont cité plusieurs choses. فَقَالُوا لَهُمْ أَنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ وَمُحَمَّدٌ عَلَى الْبَاطِلِ. Les Juifs leur ont répondu: vous êtes dans la vérité et Mohammed est dans le faux. Sallallahu alayhi wa sallam, en sachant, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans la vérité. Allah Azza wa Jalla leur a dit dans ce verset: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre croire au djibt et au tarout? وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Et ils ont dit à ceux qui ont mécru: ceux-là sont plus guidés que ceux qui ont eu la foi, sont plus guidés que les croyants, en référence à ce fait qui s'est déroulé, qui a été cité par le Cheikh Fawzan. Ici, le Cheikh Hafidhahullah nous dit: remarquez bien qu'Allah Azza wa Jalla a dit de yu'minuna bil jibti wa tarout. C'est très important. Ils croient au jibt et au tarout. Sorcellerie, shaitan, shirk. Ils croient en cela. Il nous dit: ma'a anna al-amra muwafaqatun fi dhahiri faqat. Alors que c'était un accord uniquement en apparence. Ceci car les Juifs, quand ils leur ont dit aux gens de Quraysh: vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la vérité, et lui est dans le faux, dans leur cœur, ils savent qu'ils ont tort. Moussa ne dort pas. Mahava. Allah yahdik. Donc, ils savent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est dans la vérité, et pourtant, ils disent aux gens de Quraysh: vous êtes dans le vrai, et lui est dans le faux. Allah Azza wa Jal les a blâmés. Mais le fait qu'ils savent dans leur cœur que Muhammad alayhi salat wa salam est dans la vérité ne leur a pas été suffisant pour être croyants. Donc, va nous expliquer le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il est possible de mécroire avec quelque chose d'apparent, même si l'intérieur n'est pas en accord avec ce qui apparaît. Et ça, c'est très important de connaître ces points de la croyance. وَسَمَّاهُ إِيمَانًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّمُ الْمُوَافَقَةَ لِلْكُفَّارِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ إِيمَانٌ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ بِقَلْبِهِ. Et que la personne, même si elle n'a pas dans son cœur la croyance dès lors qu'elle y adhère de manière apparente, eh bien ça suffit pour la faire tomber dans la mécréance. Wal'iyadu billah. Il nous dit aussi qu'il existe à cette époque des gens qui sont bien sûr égarés et qui disent que la personne ne mécroit que si elle adhère dans son cœur à la mécréance. C'est-à-dire que d'après eux, c'est celui qui profère la parole de mécréance ne mécroit pas si son cœur est apaisé par la foi, alors qu'il n'est pas contraint. Car s'il est dans une contrainte comme la menace de mort, il lui est permis pour se sauver de cette menace de mort de prononcer la parole de kofr en gardant le cœur apaisé par la foi. Mais on ne parle pas de ce cas exceptionnel qui est la nécessité, qui est la menace de mort. On parle d'un cas normal. Ces gens-là disent que la simple prononciation verbale de la mécréance n'en est pas une si le cœur n'y adhère pas. Cette parole est fausse. La preuve, ce verset. Et ça, c'est très important. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit وَهَذِهِ دَقِيقَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ مَسَائِلِ التَّكْفِيرِ. Dans le domaine du takfir, c'est un point essentiel, important. وَفِيهَا رَدٌ عَلَى مَنْ يَقُولُ لَا يَكْفُرُ الْإِنسَانُ مَهْمَا قَالُ وَمَهْمَا فَعَلُ. C'est une réponse à ceux qui disent, ce sont les murji'ah, qui disent la personne ne mécroit pas, peu importe ce qu'elle dise, ce qu'elle fait. Et ils disent, même si la personne insulte Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle ne mécroit pas si dans son cœur, elle n'y adhère pas. Et c'est faux. الذي يسب الله سبحانه وتعالى يكفر بالله. Celui qui insulte Allah tabaraka wa ta'ala, il mécroit en Allah. Est-il possible d'insulter Allah et de dire je ne savais pas? Cette même personne, si c'est sa simple mère qui était insultée, elle n'accepterait pas de la personne qui l'ayant insultée l'entendre dire je ne savais pas. Elle lui dirait comment? Tu prononces une insulte et tu me dis que tu ne sais pas ce que tu dis? Allah tabaraka wa ta'ala, ton créateur, mérite plus que tout. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit ensuite Al-mas'alatu al-thaniyata ashara ba'd al-mi'a. La question 112. Il nous dit rahimahullah Tafdilu din al-mushrikin ala al-muslimin. Là, le fait de préférer la religion de polythéisme à la religion de monothéisme. Ceci est un annulatif de l'islam. Comment peux-tu préférer le shirk au tawhid, le kufr au iman, la mécréance à la foi? Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et quant à ceux qui disent qu'il existe plusieurs religions célestes émanant du ciel et qu'il y a trois religions de monothéisme. Il n'y a pas trois religions de monothéisme. Le monothéisme n'est qu'un. C'est l'adoration d'un créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et c'est la religion de tous les messagers et prophètes. Isa est musulman, musulman, Jésus. Moussa, Moïse est musulman. Ibrahim, Abraham est musulman. Et tous les messagers le sont, car en réalité, islam veut dire la soumission à un seul créateur, une seule divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah dit, Al-mas'alatu thalithata ashara ba'da al-mi'a. La question 113. Labsul haqqi bil batil. Le fait de mêler le vrai au faux. Le fait de mêler le vrai au faux est une des caractéristiques des gens de l'ère pré-islamique. Ces gens-là qui veulent faire accepter le faux qu'ils portent, le propager, ont besoin d'utiliser le vrai pour le faire. Car si la personne vient et appelle directement au faux en disant que c'est faux, personne ne va l'accepter. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit qu'il y a toujours dans le faux une petite partie de vrai, c'est elle qui va être utilisée pour embellir tout le reste qui est faux, afin que les gens le suivent. Car si le faux était présenté comme il est à l'état pur, comme faux, personne ne va l'accepter. personne ne va dire, moi, je suis le faux, je suis dans le faux, j'aime le faux, je cherche le faux. Mais tout le monde va dire que ce qu'il suit est vrai. Ça, c'est la preuve que le faux en lui-même déjà est mauvais, tout le monde le sait. Seulement, ils appellent le faux qu'ils suivent comme vrai. Et on retrouve ce principe-là dans le Coran et la Sunna. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Dit, ces deux contiennent un grand péché et des utilités pour les gens. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah cite ce verset et dit que c'est la preuve que الْبَاطِلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَقِّ. Le faux, il contient une part de vrai. فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. Ces deux contiennent un péché majeur. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Et des utilités pour les gens. Et c'est ces utilités présentes dans le vin et les jeux de hasard qui vont être utilisées par un shaitan, qui vont être enjolivées de sorte à tomber dans tout le mal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Et leur utilité est bien plus grande, et leur péché est bien plus grand et important que les utilités qu'ils comportent. Pareil pour le hadith où le prophète alayhi salat wa salam nous enseigne comment le voyant fait pour tromper la personne qui le consulte. En utilisant une vérité que le djinn va lui apporter, à laquelle il va méditer, ajouter 100 mensonges, et il va utiliser une vérité pour propager 100 mensonges. Comme on le voit dans le hadith. Donc parmi les pratiques de les gens de la djahiliya et ceux qui les suivent parmi les gens de la bid'a à notre époque, le fait de mêler le vrai au faux, d'où l'importance de talab al-ilm, de l'étude de la science. Car beaucoup de gens lisent les shubuhat, les ambiguïtés, écoutent les shubuhat et disent « Hada huwa al-haq, voici le haq, voici la vérité ». Al-miskin la yufarriqu bayna al-haqq wal-batil. Ce pauvre ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux. Il ne sait pas ce qu'est la preuve. Il ne sait pas quand est-ce qu'on considère cette chose comme étant une preuve. Quand est-ce que l'on peut, avec cette chose, prouver le jugement que l'on a donné. Il ne connaît pas toutes ces choses-là. Donc, les gens vont lui mêler le vrai au faux. On va lui parler de certains fondements de la sunna. On va lui parler de certains fondements de l'islam. Puis on va y coller un faux, et sous le nom, ou sous la couverture de ces fondements de l'islam, de la sunna, on va appeler la personne au faux. D'où l'importance de connaître la science. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-mas'alatu al-rabi'ata ashara, ba'd al-mi'a, la question 114, Kitmanul haqqi ma'al ilmi bih. Le fait de cacher la vérité, tout en la connaissant. Le fait de cacher la vérité tout en la connaissant est une des caractéristiques retrouvées notamment chez les gens du livre, qui connaissaient la vérité et qui ne la démontraient pas aux gens. Ceci pour des intérêts mondains. Lorsque la personne va perdre un poste, va perdre un rang social, va perdre une place, si elle transmet la vérité, que se passe-t-il? Elle se tait. Elle fait mine de ne pas savoir. Elle fait comme si elle ne connaissait pas. Elle connaît le tawhid. Elle est dans un pays où les gens adorent autre qu'Allah, Azza wa Jal. Elle connaît le jugement de ses actions. Elle sait que c'est du polythéisme, que c'est le pire des péchés. Mais elle a un poste qu'elle va perdre si elle parle, elle transmet la vérité. Alors à cause de cela, elle se tait et elle cache la vérité. Elle a trahi l'amana, elle a trahi le dépôt donné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Pareil pour la sunna, le fait de connaître de la sunna et de voir les gens innover sans rien leur dire, tout en sachant qu'ils innovent, de peur que les gens ne nous aiment pas. De peur que les gens s'éloignent de nous. De peur que les gens ne nous aiment plus. De peur de ne plus avoir ce rang que l'on a. Cette ce rang social ou cette célébrité ou cette notoriété que l'on a se taire sur le faux et ne pas démontrer la vérité à cause de tout cela est une des actions des gens du livre et des gens de la jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala a dit الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ceux qui, à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent, ils le reconnaissent, c'est-à-dire le messager qui leur a été envoyé, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Et pourtant, ils n'y croient pas. Et ils ne propagent pas son message. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit وهذه الآية في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون قبلته الكعبة المشرفة قبلة إبراهيم عليه السلام يعلمون هذا في كتبهم. Les gens du livre savaient que le prophète صلى الله عليه وسلم allait prier en direction de la Mecque, en direction de la Kaaba, car il y a eu deux qiblas. Au début, ils priaient en direction de Jérusalem. Et ensuite, ils se sont dirigés sous l'ordre d'Allah vers la qibla. Ils lisaient cela dans le livre, ils lisaient cette vérité. Mais dès qu'elle est arrivée, ils ne l'ont pas reconnue et ils l'ont cachée de leur livre. Wal'iyadu billah. Il y a même au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a convoqué certains de ces gens qui sont venus avec la Torah. Certains d'entre eux avaient commis un péché majeur. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a demandé « Qu'est-ce qu'il y a dans votre livre concernant ce péché comme sanction ?» L'un d'entre eux a ouvert le livre et a mis son doigt sur la partie du verset concernant le jugement de l'action qu'il avait commise, du péché qu'il avait commis. فَكَتَمَ الْحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ. Il a caché la vérité tout en la connaissant. Ainsi, le musulman ne doit pas cacher la vérité tout en la connaissant, sinon il ressemblera aux gens de l'époque pré-islamique. Et Allah Azza wa Jalla a dit كُنُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. Soyez équitables témoins pour Allah, fût-ce envers vos propres personnes. Tu dois être dans la justice et dans l'équité envers tout le monde. Pour cela, les savants n'ont pas le droit de se taire, alors qu'ils peuvent éclaircir la vérité. Ils n'ont pas le droit de cacher la vérité et d'empêcher les gens de connaître le haqq. Ne dors pas, akhi. Et d'empêcher les gens de connaître le haqq. Si vous venez pour dormir, ne venez pas. Nous, on vient ici pour apprendre le tawhid. Si ton cœur dort, remets-toi en question. Wallah al-musta'an. Pourquoi vous mettez sur les murs? Akhi, pourquoi tu te mets sur le mur? Pourquoi tu mets ta main sur ta joue? Tu as quel âge? 21 ans, tu te mets sur le mur? Approche-toi. Akhi, tu as un problème de santé? Tu as un problème de santé? Pourquoi tu te colles au mur? Vous avez des problèmes de santé? Naam, Maoula? Oui ou non, akhi? Rapproche-toi. Rapprochez-vous. Ta'addabou. Ta'addabou, barakallahu fikum. Adoptez le comportement de celui qui étudie la science, sinon vous allez sortir de ce cours, d'un autre, un autre, un autre, un autre, sans jamais rien connaître de votre dîn. Parce que celui qui ne donne pas d'importance à la science, comment voulez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne dans son cœur? Wallahu al-musta'an. Qu'Allah nous guide. Ainsi, les savants n'ont pas le droit de se taire et de cacher la vérité. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a dit قَاعِدَةُ نَعْمَ أَلْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْمِئَةَ. La question 115. قاعدة الضلال وهي القول على الله بغير علم. La question 115, c'est le fondement sur lequel est concentré l'égarement même. Quel est ce fondement? sur lequel l'égarement est concentré. Dire sur Allah ce que l'on ne connaît pas. Parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science, c'est la base de tous les égarements. La base de tous les égarements, c'est de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَاهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit: Mon Seigneur ne m'a interdit que les turpitudes apparentes soient-elles ou cachées, le péché, la transgression, et que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous dites d'Allah ce que vous ne connaissez pas. Certains savants ont dit que les péchés ont été cités, sont au nombre de 5 ici, dans un ordre de gravité croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grave. Et qu'est-ce que l'on remarque ? Al-qawlu ala Allah ja'a ba'da shirk, que dire sur Allah ce que l'on ne connaît pas a été cité après le shirk, comme si que c'était plus grave que le shirk. Wal'iyadu billah. Pourquoi ceci ? لأن الحقيقة أن القول على الله بغير أن 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 الشرك بالله سبحانه أن القول على الله بغير علم يؤدي إلى الشرك سبب الشرك سبب كل الشرك هو هذا. C'est que la cause de toute forme de shirk, c'est de dire d'Allah ce qu'on ne connaît pas. Lorsque le mushrik vient, lorsqu'il demande l'intercession autre qu'Allah et qu'il dit هذا ليس شركا هذا توحيد هذا عبادة هذا يحبه الله يقول على الله ما لا يعلم. Lorsque il vient et dit ce n'est pas du polythéiste, Allah l'aime, Allah l'a ordonné, ou comme ils ont dit والله أمرنا بها, c'est Allah qui nous l'a ordonné. Donc le fait de dire d'Allah ce qu'on ne connaît pas amène à toute forme de mots, والعياذ بالله. Et ça, c'est quelque chose de grave, que ce soit dans la parole ou alors même dans la réponse aux questions. Al-fatawa, il ne t'appartient pas de prononcer des fatawa sans science, sans connaissance. Al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est interrogé d'une chose, attend la révélation pour répondre. Il ne répond pas de lui-même. Suratul Kahf a été révélé après que le prophète a été interrogé. Il a dit à la personne qui lui a posé la question de revenir le lendemain. Et elle a été révélée 2 semaines après. Et dans Surat Al-Kahf, Allah Azza wa Jal dit à son prophète de dire Inch'Allah quand tu parles de demain. Le prophète attend la révélation avant de répondre. Il dit, que dire alors d'autre que lui? Si la question n'est donc pas claire pour toi dans le Coran et la Sunna, dis la adri. Dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Nas'alullah an yuwaffiqana an naqul la adri idha la darayna. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à dire je ne sais pas si on ne sait pas. Tu n'es pas obligé de répondre, ya akhi. Remets-toi en question quand on te demande quelque chose. Si tu es sûr que tu sais, dis ce que tu sais et arrête-toi là. Si tu ne sais pas, tais-toi. Walhamdulillah. L'imam Malik a été interrogé. On lui a posé 40 questions. Il a répondu à certaines et pour la plupart, il a dit « La adri, la adri, la adri, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » L'homme lui a dit « Je suis venu à toi d'un endroit éloigné. J'ai supporté les contraintes du voyage pour que tu me dises la adri. Je ne sais pas. » L'imam Malik, rahimahullah, lui a dit « Mets-toi sur ta monture. » Va dans le pays d'où tu viens et dis aux gens, j'ai demandé à Malik, il m'a dit, je ne sais pas. Combien de fois le Cheikh Abdul Mahsin al-Abbad, hafidhahullah, dit, la adri, la adri. Il ne se fatigue pas à demander des détails ici et là, il ne sait pas, il dit, je ne sais pas. Nas'alallah an yahdiyana li dhalik. Allah nous guide à cela, nous pardonne nos erreurs. Pareil pour le fait d'écrire des livres. Certains écrivent des livres alors qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas. Et sans avoir les compétences, il ne faut pas s'embrigader dans ces voies dangereuses. L'auteur, rahimahullah, dit « Al-mas'alatu s-sadisata asharata ba'd al-mi'a al-tanaqudu al-wadih lima kazzabu bil-haqqi kama qala ta'ala bal kazzabu bil-haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrim marij. » Le fait qu'ils se contredisaient de manière claire dès lors qu'ils rejetaient la vérité. Ça, c'est un principe inévitable. Celui qui rejette le haq, qui rejette la vérité, va inévitablement se contredire. Celui qui suit une voie, rejetant dans celle-ci le vrai, ou suivant le faux, va être amené à se contredire dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va dire, dans ce à quoi il va appeler. Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sens du verset, mais plutôt, ils ont rejeté ou démenti, traité de mensonge la vérité qui leur est venue. Ils se trouvèrent alors dans un trouble. C'est une traduction rapprochée, bien évidemment. Dans le sens où ils sont complètement troublés parce qu'ils ont rejeté la vérité. Donc on va trouver dans leurs paroles maintes contradictions. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit du Coran, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il émanait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé maintes contradictions. Mais comme c'est le haq, il ne peut pas avoir de contradictions. Donc, dès lors que la personne suit le faux, elle va se contredire. Elle va se contredire même dans l'argumentation qu'elle va utiliser pour justifier ses actions, paroles et croyances. Et vous verrez que ces arguments sont contre elle et pas pour elle. Allahu Akbar. Et Allah Azza wa Jalla a dit « فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ » Qu'y a-t-il après la vérité d'autre que l'égarement ? L'auteur, rahimahullah, a dit « الْمَسْأَلَةُ السَّبِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِئَةِ » La question 117. Al-imanu bi ba'd al-munazzali dun ba'd. Le fait de croire en une partie de ce qui est descendu de la révélation sans croire à l'autre. Sans croire à l'autre. Je pense que nous avions déjà parlé de ce point-là qui consiste à croire à une partie du livre et rejeter l'autre partie. الإيمانُ ببعضِ المُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ بَعْضٍ مِنْ سِمَةِ أَوْ سِمَةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. Et on le retrouvait chez les gens du livre. قال الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضا أو أن يخرجوهم من ديارهم وأن يفادوا أسراهم فعملوا بواحدة من هذه الخصال الثلاث وتركوا البقية. ذكر الشيخ الآية الآيات. الشيخ حفظه الله cité plusieurs versets de sourate al-Baqara. Vous pourrez les relire. Ce sont les versets de 83 à 84 où l'on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner trois choses à ces gens. Ils vont en appliquer une et délaisser les deux autres. Ils vont en appliquer une seule et délaisser les deux autres et prendre une partie en rejetant l'autre partie relève des comportements des gens de la jahiliya. Et Allah Azza wa Jal nous montre que cela fait partie du suivi des patients. Il nous dit أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ. Est-ce que chaque fois qu'un messager viendra avec ce qui ne concorde pas avec vos passions, aux passions de vos âmes, vous allez vous enorgueillir. فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Vous traiterez de mensonge une partie et tuerez une autre. Ce comportement n'est pas celui de l'islam. المسألة الثامنة عشرة بعد المئة. La question 118. التفريق بين الرسل. Le fait de faire la différence entre les messagers. Comme nous l'avions dit, fait partie de la foi du musulman de croire en l'ensemble des messagers. sans faire de différence. Allah Azza wa Jalla a dit, La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. On ne fait aucune distinction entre ces messagers. Tu ne dois pas croire à l'un mais croire à l'autre. Tu ne fais aucune distinction entre les messagers d'Allah, car mécroire en un seul revient à mécroire à l'ensemble comme on avait pu le développer. L'auteur rahimahullah dit Al-mas'alatu at-tasi'ata 'ashra ba'da al-mi'a, la question 119. Mukhasamatuhum fima laysa lahum bihi 'ilm. Ils débattaient et polémiquaient dans ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissent pas, ils ignorent, mais ils débattent, ils polémiquent. Comment va-t-il pouvoir atteindre le haq qu'il ne connaît pas? Comment va-t-il pouvoir secourir le haq qu'il ne connaît pas? Le djahil, l'ignorant, ne doit pas débattre, ne doit pas polémiquer. Beaucoup de gens nous disent, j'ai débattu avec telle personne, elle m'a dit telle et telle chose et maintenant je ne sais plus comment lui répondre, que dois-je faire? Tu n'avais pas à débattre. L'ignorant ne débat pas, l'ignorant dit Allahu A'lam, va voir un tel, lis tel livre, écoute la parole de tel shir parmi les savants de la sunna. Mais la personne ignorante ne peut pas débattre d'une chose qu'elle ne connaît pas. Et ça c'est un égarement. Allah Azza wa Jal a dit بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ. Dans le sens rapproché du verset, il dit de certains de ces gens qu'ils ont mécru ou qu'ils ont traité, pardon, de mensonge ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont traité de mensonge ce qu'ils ne connaissent pas. Et la réalité de cette chose ne leur est pas venue. Ils n'ont donc pas la connaissance. Cela fait partie des comportements des gens de l'ère pré-islamique. Et il y a deux points à retirer ici. Le premier, c'est que l'on ne doit pas parler sans science. On ne doit pas débattre ou polémiquer de ce que l'on ne connaît pas. Une personne a dit à une autre, peux-tu transmettre de ma part aux savants qu'en réalité telle et telle chose est interdite car d'après mon effort d'interprétation, il en découle tel et tel préjudice. Personne ne sait même pas lire l'arabe. Elle fait un effort d'interprétation. Celui qui fait un effort d'interprétation alors qu'il est djahil, même s'il atteint le jugement juste, il est dans le péché, il est dans le faux. A dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Revenez au Sharh de l'Usul Sitta de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, le commentaire des six fondements. Et vous allez voir cela. Comment est-ce que tu fais un effort d'interprétation alors que tu ne connais même pas les fondements de l'effort d'interprétation? Ajib. La deuxième chose que l'on retrouve, c'est Annahu la yunkiru al-shay al-ladhi ya'lamuhu ghayruh. La chose que quelqu'un d'autre que toi connaît, tu ne la renies pas. فَإِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ عِلْمٌ خَفِيَ عَلَيْكَ فَلَا تُنْكِرْ مَا عِنْدَ غَيْرِكَ. Si toi tu ne connais pas cette chose-là, ne la nie pas de la personne qui elle la connaît avec science. L'auteur rahimahullah a dit الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِئَةَ, la question 120. دَعْوَاهُمْ اِتِّبَاعَ السَّلَفِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِمُخَالَفَتِهِمْ. Ils prétendaient suivre les salafs, les pieux prédécesseurs, tout en déclarant clairement qu'ils les contredisaient. À l'image des gens du livre qui disaient qu'ils croient qu'ils suivaient Moussa, alayhi salam, alors qu'ils ont falsifié son livre. Qu'ils suivaient Isa, alayhi salam, alors qu'ils ont falsifié son livre. Qu'ils suivaient Ibrahim, alayhi salam, alors qu'ils ne l'ont pas suivi, qu'ils n'ont pas accompli le Hajj, qui fait partie des actions du prophète Ibrahim aussi, alayhi salam. Et à notre époque, ceux qui prétendent la salafiyya, qui prétendent suivre al-salaf al-salih, al-kitab al-sunna, le Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, puis lorsque tu regardes sa méthodologie, sa voie qu'elle suit, tu vois qu'elle contredit la salafia. Tu vois qu'elle n'est pas dans le manhaj, la méthodologie des pieux prédécesseurs, et les prétentions ne sont pas suffisantes. Il ne s'agit pas que de prétendre. Je suis un tel, je suis un tel, je suis de telle chose, je suis tel mouvement, j'ai telle croyance. Je suis telle croyance. Il ne suffit pas de prétendre. Mais ce qu'il faut, c'est le montrer. Tout d'abord en toi-même, dans ta croyance, d'avoir le tawhid, d'avoir la croyance du tawhid, la sunna, de connaître Allah Azza wa Jal par ses noms, par ses attributs. Al-aqidatu qabla kulli shay. La croyance est avant tout. Et celui qui vous dit al-khuluq qabla kulli shay, hadha dal. Celui qui vous dit que le comportement passe avant tout, c'est une personne égarée. Parce que l'aqidah huwa al-khuluq ma'a Allah Azza wa Jal. Wa yakunu qabla al-khuluq ma'a an-nas. La croyance, c'est le comportement vers Allah. Et cela passe avant le comportement vers les gens. Et le bon comportement découle de la bonne croyance. C'est pour ça que tu vois man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, l'aqida, falyaf'al kada wa kada al-amal. Celui qui a foi en Allah et au jour dernier, qu'il fasse telle et telle chose. La croyance en Allah et au jour dernier, et ensuite les actions. Toujours la croyance passe avant. Ces gens-là prétendaient suivre des prophètes alors qu'ils ne les suivaient pas. Et à notre époque, ils prétendent suivre les compagnons, ils prétendent suivre l'imam Ahmed, ils prétendent suivre l'imam Malik, Al-Shafi'i, Abu Hanifa, alors que quand tu observes sa croyance ou leur croyance, tu vois qu'ils n'ont rien à voir avec eux. Et ça, c'est une des questions de l'époque pré-islamique, Allah Musta'an. L'auteur, rahimahullah, dit المسألة الحادية الحادية والعشرون بعد المئة. La question 121. صدهم عن سبيل الله من آمن به. Il faisait dévier de la voie d'Allah ceux qui avaient foi en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une des caractéristiques de ces gens qui est aussi suivie dans cette époque, qui consiste à faire égarer les gens de la vérité. Ne pas se contenter de suivre l'égarement et de se détacher de la vérité, mais aussi de tirer les gens vers ce faux et d'emmener les gens en les tirant de la vérité dans laquelle ils étaient. Ça, c'est un grand égarement. Comme ceux qui, par exemple, pour faire sortir les gens de l'islam et les amener à d'autres religions, leur disent « Nous sommes tous frères. » On peut discuter entre frères. Quels frères ? Frères dans quoi ? « Alladhi yushriku billahi azza wa jal, laysa akhan liman la yushriku billah, wa lan yakun. » Celui qui donne l'adoration à un autre qu'Allah, n'est pas et ne sera jamais le frère de celui qui n'adore qu'Allah seul et sans associé. Subhanahu wa ta'ala, inna dina inda Allahi l'islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra l'islami dina, falan yuqbala min, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée dans l'au-delà, il sera des perdants. Ils disent, et ils font des livres, comme l'on voit les témoins de Jéhovah par exemple, et autres, hein. Ils font des livres où ils vont même te mettre des versets du Coran pour te dire « Regarde, on a nos versets de la Bible et on a vos versets du Coran. En plus, notre livre est de la même couleur que le Coran. On l'a traduit en arabe, nous sommes frères. La abadan, lesna ikhwa. Innama al-mu'minuna ikhwa akhta'ta. » Tu t'es trompé. Seuls les croyants sont des frères, comme Allah Azza wa Jal l'a dit. Ainsi, ces gens font tout pour faire dévier les gens de la vérité et les emmener vers le faux. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Al-mas'alatu al-thaniyatu al-ishuruna ba'd al-mi'a » La question 122. « Mawaddatuhum al-kufra wal-kafirin » Le fait qu'ils aimaient la mécréance. Ils aimaient la mécréance et ceux qui propageaient la mécréance. Allah Azza wa Jalla a dit: "Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru." tu vois beaucoup d'eux s'allier avec ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, l'auteur rahimahullah a dit المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة. Les questions 123 jusqu'à 128. العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين. Ce sont des actions relevant du domaine de la croyance que ces gens faisaient, qui sont autour de la sorcellerie, de la voyance et autres. Al-iyafa al-tayara, ce que l'on appelle le mauvais augure, c'est que lorsqu'ils voulaient voyager vers un endroit, ils voulaient se rendre vers un endroit, ils lâchaient un oiseau et regardaient par où est-ce qu'il allait s'envoler. Si l'oiseau partait dans la bonne direction, c'était pour eux signe qu'il était bon d'entreprendre ce voyage. Sinon, c'est un signe de malheur qui est susceptible d'arriver. Ils s'empêchaient d'entreprendre ce voyage. Et cela fait partie du shirk. Et entre dans tout cela ce que vous entendez comme ce qu'ils appellent dans leur langage la poisse, le fait d'avoir vu telle chose, donc il va m'arriver telle chose mauvaise, etc. Tout cela, ça entre dans cela, mais on le voit en détail dans Kitab al-Tawhid, et on l'a vu. Walillahi alhamd. Al-iyafa wa al-tiyara, alors que le musulman doit placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il veut faire quelque chose, idha hamma al-muslimu bi amrin min al-umur, tijara ou ghayri tijara, tawakkala ala Allah wa salla l'istikhara. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et il prie salat ou l'istikhara, et il demande à Allah de le guider vers ce qu'il y a de bon pour lui. At-tarq, ce que l'on appelle at-tarq, une de leurs pratiques aussi, ou al-khat fi al-ard. Ces gens-là faisaient un trait dans la terre. Et ils disaient qu'avec ça, et ils regardaient le sable dans la terre, ils disaient qu'avec avec cela, ils arrivaient à savoir que demain, il va arriver telle et telle chose. سيكون كذا وكذا يخطون على الأرض ثم يقولون غدا يكون كذا وكذا ولا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. Et seul Allah sait ce qui arrivera le lendemain. الكهانة, la voyance, الذي يقول بأنه يعلم الغيب, celui qui prétend connaître l'invisible, et celui qui va chez lui. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Quiconque se rend chez un devin et croit à ce qu'il dit aura mécru à ce qui a été descendu sur Muhammad صلى الله عليه وسلم. التحاكم إلى الطاغوت, le fait de prendre le jugement du tarout, c'est-à-dire d'autres que le Coran et la sunna, cela fait partie de la jahiliya, car le musulman, alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, revient au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, wa karahatu tazwiji bayna al-idayn, yani bayna id al-fitri wa id al-adha, le fait de détester se marier entre les deux id, après Ramadan jusqu'au Eid du sacrifice. Il disait, il y a un mal à se marier dedans, c'est-à-dire dans cette période. Pour eux, s'ils se mariaient entre Eid el-Fitr et Eid el-Adha, c'est un indice montrant qu'il va être susceptible d'avoir un mal ou quelque chose. Et certains savants ont même dit que c'est pour cette raison, Allahu A'lam, comme l'a énoncé le Cheikh Abdelrazzaq, que Aïcha radiyallahu anha a cité qu'elle s'est mariée au mois de Shawwal avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont dit comme pour rejeter cette pratique de la jahiliya, qu'elle s'est mariée au mois de Shawwal. Et ici s'arrête l'étude de Masail al-Jahiliya. Qu'Allah azza wa jalla nous a facilité de lire, d'étudier. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه المجالس وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأن يكفر بها عنا سيئاتنا وأن يشرح بها صدورنا ويغفر بها ذنوبنا ويزيد ويقوي بها إيماننا ويهدينا ويسددنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نسأل الله عز وجل البركة في العمل الصالح في الدين نسأل الله الثبات على الكتاب والسنة والبعد عن الفتن والبدعة والشرك والمعاصي وأن يوفقنا دائما أبدا للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل البركة في العمر والرزق والصحة والأبدان والأموال إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين وأن يرزق ويغني فقراءهم ويشفي مرضاهم وأن يهدينا جميعا ويبلغنا رمضان في صحة وإيمان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يجعله رحمة للأمة الإسلامية وأن يجمع قلوب أبنائها على الحق والهدى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونسأل الله أن يجازي خيرا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأن يجازي خيرا الشيخ صالح الفوزان وعلماء السنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك